Vous écoutez RTL.
RTL. Vous savez, sur un échiquier, il y a 64 cases et 32 pièces. Mm-hmm.
La curiosité est un vilain défaut.
Dès le premier coup, il y a 20 possibilités.
Thomas Hugues.
Au bout du compte, on arrive à 10 puissance 120 possibilités.
Sidonie Bonnec.
Tout cela est excellent pour la créativité, excellent pour garder l'esprit en éveil et l'inciter à inventer de nouvelles combinaisons. Ça, c'était pour l'aspect mental.
La curiosité est un vilain défaut.
Bon, peut-être que malgré les conseils du bon docteur Simès, vous ne comprenez rien aux échecs. Ce jeu vous semble peut-être trop compliqué. Pourtant, c'est un sport de combat qu'on va découvrir tout de suite sur RTL avec Maxime Vachier-Lagrave, qui est champion de France d'échecs. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Sur RTL. Vous êtes content d'être là? Tout va bien?
Tout va bien.
Bon, vous êtes premier joueur français et l'un des meilleurs joueurs mondiaux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis 5e joueur mondial actuellement. Donc, après, les classements évoluent tous les mois. Donc,
ça veut dire qu'à Noël, personne n'a joué avec vous dans votre famille. Vous êtes tout seul face à votre jeu d'échecs, non?
À Noël, j'étais à un tournoi, en fait. J'étais au championnat du monde de Rapid et Blitz, qui ne s'est pas très bien passé, mais ça, c'est le sport, comme on dit. Donc, c'était en Arabie Saoudite, en fait.
Et c'était quoi? Parce que j'ai pas bien compris.
Championnat du monde de partie. Oui, Rapid et Blitz, j'ai joué un peu vite. Mais justement, c'est les parties. Qui sont plus rapides que les
On a très peu de temps pour réfléchir et pour jouer, c'est ça?
Voilà, c'est ça en fait. Partie longue, c'est 4 heures de moyenne, 6 heures, 7 heures maximum. Ce qu'on appelle des parties rapides, c'est à peu près 1 heure en tout pour la partie. Et partie blitz, c'est 10 minutes.
Oula, 10 minutes. Bon, alors moi, je ne connais rien aux échecs, donc on va partir des bases. Déjà, la sémantique, l'origine du mot, on aime bien ça dans cette émission, le mot échec, ça vient d'où?
Alors, il y a plusieurs théories, bon, elles se recoupent un petit peu, donc alors le jeu d'échecs vient soit d'Inde, soit de Perse, soit d'Arabie à l'époque, donc c'est je pense que c'est il y a à peu près 1500-2000 ans, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de toute façon en fait l'origine de échecs c'est
c'est un mot arabe, c'est
voilà, un mot arabe ou perse. Enfin, je pense que c'était le cas pour les deux pays. C'est pour ça que l'origine n'est pas forcément complètement déterminée. Mais l'idée, c'est que charmat, alors ça c'est en perse, ou shermat, ça c'est en arabe, ça veut dire le roi est mort. Voilà. D'où l'expression du jeu d'échecs. C'est vrai que c'est assez violent, mais c'est vrai que le but du jeu d'échecs, c'est la mise à mort figurative du roi adverse.
Oui, vous dites que c'est un sport et que c'est un sport de combat. Pour quelle raison c'est un sport? Pour moi, c'était un divertissement, comme un jeu de société, finalement, le jeu d'échecs.
Alors, les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que moi, quand je joue au tennis, évidemment, c'est un sport par sa dimension physique, mais c'est surtout pour le divertissement que je le fais. Et je ne prétends pas du tout combattre Federer, comme c'est mon idole.
Mais ça veut dire que vous avez besoin d'un entraînement sportif que vous...
Oui, on a besoin d'un entraînement sportif. Ouais. On a besoin, évidemment, de gérer nos tournois, gérer nos compétitions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une compétition, ça va durer à peu près 10-15 jours. Mmh. Une partie par jour qui peut durer, donc, comme je l'ai dit, 4 heures de moyenne, mais parfois jusqu'à 6 ou 7 heures. Donc, à la fin du tournoi, on est vidé physiquement parce que... la concentration est maximale.
Et Maxime Vachier-Lagrave, vous publiez Joueur d'échecs chez Fayard, et dans ce livre, vous dites qu'il faut avoir l'instinct du tueur. C'est pour ça qu'on est dans cet esprit-là de sport de combat. Goût du sang, c'est un terme que vous employez aussi. C'est étonnant, ça?
Alors, c'est étonnant, mais en fait, comme dans toutes les compétitions, l'objectif, c'est de marquer le plus de points, le plus de victoires. Donc forcément, dès qu'on sent qu'un des adversaires est soit dans un mauvais jour, soit dans simplement une mauvaise période, il vient d'enchaîner des parties difficiles, on essaye évidemment de capitaliser là-dessus.
Profiter de sa faiblesse, c'est ça?
Profiter de sa faiblesse, exactement.
Et savoir l'achever, d'où cette idée d'un instincteur.
Et puis la partie d'échec, c'est un face-à-face. Donc c'est vrai qu'il y a, par exemple, beaucoup de parallèles qui sont faits avec la boxe. C'est parce que par le fait que c'est un face-à-face, et bon, les coups qu'on va porter à l'adversaire, c'est évidemment pas des coups de poing.
Et vous pouvez vous déconcentrer, exprimer des émotions contradictoires pour tromper votre adversaire. Il y a tout ça qui rentre en jeu ou pas dans une partie d'échec?
Alors, il y a une part de bluff, mais on va pas non plus déjà chercher à déconcentrer l'adversaire, par exemple en faisant des mimiques ou en soufflant, c'est assez mal vu. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que voilà, l'adversaire respecte ma réflexion, en retour je respecte la sienne, c'est complètement normal. Par contre, oui, il y a une part de psychologie, de bluff qui peut se réaliser sur les temps de réflexion, sur les coups joués. Puis parfois, il y a des, comme bon, c'est un jeu assez complexe, donc en fait, j'aimerais bien dire que j'y comprends tout, mais en fait, pas du tout.
Même vous.
Voilà, même moi, même le
cinquième mondial,
même le champion du monde. On comprend pas tout. On est loin d'avoir achevé le jeu. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais toujours est-il que voilà, il y a des positions où on va entre guillemets naviguer à vue. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment évaluer, donc il faut quand même rester impassible, ne pas montrer justement les doutes qu'on peut avoir.
La curiosité continue sur RTL. Dans un instant, on se demande si c'est possible de tricher aux échecs.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis normal, la plupart de mes amis joueurs sont normaux. Je réponds au cliché du joueur d'échecs mateux, mais je peux assurer que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Si j'ai envie de devenir champion du monde, c'est avant tout pour moi, pour vraiment arriver au bout de ce rêve auquel j'ai consacré quand même beaucoup de temps depuis mon enfance.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Avec le champion de France d'échecs, Maxime Vachier-Lagrave, on découvre les secrets de ce jeu et de cette compétition qui ne me semble pas tout à fait féminine. Il y a des championnes de jeux d'échecs ou alors c'est un monde assez macho?
Alors un peu des deux, c'est-à-dire que ouais. Oui, on va pas se mentir, le milieu des échecs est assez machiste, de manière générale.
C'est-à-dire qu'on considère les femmes comment?
Comme moins forte. Alors pour l'instant c'est le cas, mais c'est vrai qu'après parfois ça va plus loin et c'est pas forcément à notre honneur. Mais toujours est-il que bon, il y a quand même des championnes. Alors,
ils sont à quel niveau mondial?
Voilà,
la première femme qu'on trouve dans le classement mondial, par exemple.
La première femme actuellement qu'on trouve dans le classement mondial. Alors, c'est assez symbolique, elle est 64e, donc comme le nombre de cases du jeu. Mais voilà, donc on peut voir le gouffre. Alors après,
comment vous l'expliquez, ça?
Bah, y a plusieurs choses. Il y a des raisons sociétales. Simplement, il y a moins de joueuses au départ. Donc forcément, comme il y a moins de prétendantes au départ, elles arrivent moins haut. Il y a aussi évidemment cette habitude qu'elles ont de jouer les... Enfin, il y a un circuit en fait féminin.
Donc, c'est pas de compétition. Mixte les
voilà.
Compétitions
alors, les compétitions sont mixtes, mais ouais. Il y a à côté un circuit féminin, ce qui fait qu'elles jouent régulièrement entre elles. Et bon, parfois c'est sûr que quand on arrive première femme, alors là, en ce moment, c'est un peu différent puisque justement la numéro 1 mondiale qui est chinoise essaye exclusivement d'affronter des hommes. Mais après, c'est sûr que d'un côté, elle est arrivée en haut de sa pyramide et c'est vrai que parfois, c'est difficile de se motiver pour aller plus haut. Alors pour le coup, c'est le cas. Donc
et elle grignote dans le classement mondial.
Elle grignote, là. Elle était en dehors du top 100 il n'y a pas si longtemps. Donc oui, elle progresse.
Donc là voilà, 64e. Vous publiez, Maxime Vachier-Lagrave, joueur d'échecs chez Fayard, joueur d'échecs professionnel. Alors on va rentrer un peu dans votre quotidien, dans votre préparation. Est-ce qu'il y a un entraînement avant un grand tournoi et un peu comme un sportif de haut niveau, quoi, puisqu'on parle de sport?
Oui, complètement. Alors déjà, il y a l'entraînement quotidien qui, pour le coup, est assez léger.
Vous jouez contre votre ordinateur?
Alors, je joue pas contre l'ordinateur, mais je vais regarder des positions. Alors, parfois tout seul, parfois c'est simplement
c'est
de l'entraînement.
Des stratégies, c'est ça? De déplacement des pièces?
Ça peut
être
tout bêtement des exercices à résoudre. Alors, bon, assez compliqué, évidemment. Mais l'idée, c'est entre les tournois, par exemple, quand j'ai une pause qui va durer un mois, c'est de dérouiller un peu le cerveau à l'approche d'un autre tournoi. Mais la plupart du travail actuel, c'est du travail avec l'ordinateur pour essayer de trouver des nouvelles idées pour affronter mes prochains adversaires.
C'est-à-dire que vous en vivez de ce métier de champion de France d'échecs?
Oui, j'en vis correctement. C'est le cas à peu près pour simplifier du top 100 mondial.
Top 100 mondial, ça veut dire, pardon, on va parler chiffres, vous gagnez combien par mois grâce aux échecs?
C'est variable, c'est selon mes résultats, bien sûr. Mais les deux dernières années, j'avais gagné 100 000 euros à peu près de bénéfices dans l'année.
D'accord.
Cette année, l'année 2017, a priori, un peu plus.
Ah oui, c'est beau.
Donc
bravo.
C'est un joli score. Mais on est loin des grands sports professionnels, je pense au tennis, par exemple.
Oui, on n'a pas un circuit aussi médiatique qu'au tennis, donc c'est aussi simple que ça.
Donc il n'y a pas de sponsors, quoi. Il y a moins de sponsors, en tout cas.
Il y a des sponsors, il y a aussi pas mal de mécénats. Mais c'est sûr que voilà, il n'y a pas un circuit aussi bien organisé que le circuit ATP ou WTA.
Là. Et alors la triche, là, je disais tout à l'heure, juste avant de réécouter, de se faire plaisir en écoutant France Gall et Michel Berger, la triche aux échecs, il y en a ?
Alors il y en a, il y a eu des cas avérés. Bon après, comme le dopage pour les autres sports. Alors pour le coup, le dopage n'est probablement pas très bénéfique aux échecs. En tout cas, le rapport qualité-prix est sans doute pas aussi important que dans les sports vraiment d'endurance comme le cyclisme, l'athlétisme, qui mettent à nerf tous les muscles.
Mais alors la triche, vous parlez de triche électronique.
Voilà,
par exemple, c'est quoi?
Bah en fait, c'est simplement les ordinateurs sont plus forts que nous aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entraîne avec leur aide. Donc du coup, si en tournoi je décide d'utiliser ne serait-ce que mon téléphone avec qui me donnerait les coups à jouer, bah, je vais jouer beaucoup mieux que je ne joue actuellement. Donc
il y a des complices éventuellement dans le public qui peuvent aider les joueurs,
alors,
c'est ça ?
Évidemment, maintenant, tout appareil électronique est interdit. Même dans certains tournois, les stylos sont interdits. Ils nous les fournissent ou les montrent. Voilà. Et en théorie, on n'est pas censé avoir de contact, que ce soit avec d'autres joueurs, autres que son adversaire pour les besoins de la partie, ou de contact extérieur avec les spectateurs.
Mais au fait, qui a inventé les échecs? Pour le savoir, il faut rester avec nous, les curieux, sur RTL. À tout de suite.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
14h54 sur RTL. Merci d'être avec nous sur la première radio de France. La curiosité, c'est tous les jours.
Dépêchez-vous, les bientôt 55.
Vendredi, si on aime, vous le savez, dévoiler. Oh non, encore 45 secondes, donc 55. On aime dévoiler les secrets, entrer dans les coulisses. Est-ce que c'est justement ce qu'on vous propose avec Maxime Vachier-Lagrave, qui est champion de France d'échecs, 5e joueur mondial. Les coulisses, ce qu'on ne sait pas sur ce sport, où on parle même de sport de combat depuis tout à l'heure, avec des analogies avec la boxe. Est-ce qu'il y a des parties d'échecs clandestines pour de l'argent?
Il y a des parties pour de l'argent, alors c'est rarement clandestin, ou alors j'ai pas été invité aux bons endroits. Mais par exemple, ça se passe, alors il y a des parties, mais je crois qu'elles sont pas tarifées, en règle générale au jardin du Luxembourg, entre des passants. Voilà, enfin, souvent des habitués qui s'installent à des tables qui sont situées.
Et pour de l'argent, ça arrive de se défier.
Ça, c'est surtout, j'ai envie de dire, à New York, à Central Park, il y a justement le même phénomène, des joueurs qui viennent habitués, qui s'assoient aux tables et qui jouent pour de l'argent contre des passants. Et ça, en général, ils font même ça pour gagner leur vie, en fait.
C'est dur, j'imagine, d'être un très très bon joueur d'échecs. Est-ce que c'est facile de s'y mettre aux échecs quand on n'a pas du tout l'habitude? Ça a l'air un peu impressionnant comme ça.
Est-ce qu'il faut forcément être matheux? Pardon, Sidonie, de surenchérir, mais est-ce qu'il faut être une tête, un super doué en maths pour être forcément bon aux échecs?
Alors, je suis matheux, je connais des matheux qui sont complètement nuls aux échecs, et je connais des non-matheux qui sont arrivés à des niveaux d'élite. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de corrélation, au moins de corrélation évidente. Et ensuite, est-ce que c'est facile de s'y mettre aux échecs? Je pense que oui, c'est-à-dire que moi j'ai appris les règles en 15 minutes. C'est à peu près le cas de tous les enfants qui apprennent. Si en fait les échecs sont de plus en plus implantés à l'école.
Vous aviez 6 ans quand votre papa vous a offert un jeu d'échecs, c'est ça? 5 ans,
voilà.
D'accord. Donc vous apprenez les règles en un quart d'heure et après vous devenez fanat tout de suite?
Oui, je deviens fanat très vite, je joue rapidement contre l'ordinateur. L'ordinateur électronique avec lequel on avait qui avait été offert à Noël.
Oui.
Et donc après directement le septembre suivant, je suis rentré en club et c'est là que j'ai commencé à vraiment progresser, à jouer en compétition également.
Et vous êtes devenu professionnel à quel âge?
Alors officiellement, c'est-à-dire quand j'ai arrêté mes études, c'est-à-dire après ma licence de maths, donc je devais avoir 20 ans, grosso modo. Après, dans les faits, je voyageais déjà énormément pour les tournois. Et j'ai commencé à gagner, entre guillemets, ma vie, bien loin de ce que je gagne aujourd'hui, vers 18 ans.
Maxime Vachier-Lagrave, dans votre livre « Joueur d'échecs » qui est publié chez Fayard, vous racontez aussi des légendes autour de ce sport, autour de ce jeu. Par exemple, celle du Brahman Sissa. Que raconte cette histoire ?
Alors, si je me rappelle bien, Sissa avait résolu un problème pour le roi, sans doute de Perse, si je me souviens bien, mais il faudra m'excuser si je me trompe. Et donc, il lui avait proposé de nommer la récompense qu'il voulait obtenir. Et il a dit, et là, ça va être un peu de maths. Donc, il dit, attention, c'est simple. On va amenez-moi un jeu d'échecs. Sur la première case, vous mettez un grain de riz. Sur la deuxième case, deux grains de riz. Sur la troisième case, quatre grains de riz. Et tout ça en progression géométrique. À chaque case supplémentaire, vous doublez le nombre de grains de riz. Et bon, le roi était surpris de la demande qui était assez modeste.
Autant de grains de riz qu'il y aura à la fin de l'échiquier, c'est ça. C'est ce qu'il demande. Ça.
Non, mais en progression géométrique. Donc 1, 2,
4. Thomas, suivez un peu.
Je suis perdu, ouais. C'est pour ça.
Donc 1 grain de riz, puis 2 grains de riz, puis 4 grains de riz, puis 8 grains de riz. Et donc le roi est surpris par la demande modeste, donc il accepte. Et ensuite, il réalise que la demande équivaut à plusieurs milliers de fois la production mondiale de riz, puisque ça fait de puissance 64-1, c'est-à-dire, je ne sais plus, 15
donc,
millions de milliards.
Donc il faut toujours se méfier d'un joueur d'échecs, c'est ça la leçon ou pas ?
Il faut toujours se méfier, oui. Les demandes parfois, qui semblent parfois modestes au premier abord peuvent être un peu plus sournoises que ça.
Et c'est pour ça aussi, on le comprend maintenant, que vous nous dites que vous avez encore beaucoup à apprendre et à comprendre de ce jeu merveilleux des échecs et de ce sport. Donc vous êtes le cinquième mondial. Merci beaucoup, Maxime Vachier-Lagrave. Votre livre, Joueur d'échecs, est donc publié chez Fayard.
Vous écoutez RTL.